Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Madame, Monsieur, chers collègues, donc je suis Christophe Niewiadomski, le directeur de la MESH, et je suis très heureux d'ouvrir ce 12e printemps des sciences humaines et sociales qui va donc se dérouler du 25 mars au 16 avril. Donc, cet événement est consacré au végétal. Initialement, il était programmé en 2020, et puis, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous avons été contraints de le déplacer et de lui donner une forme essentiellement distancielle. Je vais laisser le soin à mes collègues Mathilde Vilbeau et Emmanuel Poulain-Goutré de vous présenter rapidement le programme de ce printemps et puis les modalités d'organisation. Mais je voudrais en préalable insister sur quelques points. D'abord, en premier lieu, je voudrais remercier mes collègues de la MESH, toute l'équipe de la MESH pour l'organisation de cet événement, et plus particulièrement Constance Bien-Aimée, Mathilde Vibault et Adèle Huguet pour la programmation, la conception graphique et la communication autour de cet événement. Alors, c'est pour nous quelque chose d'important parce que ce printemps des SHS, excusez-moi, donc est un événement annuel phare de notre institution. Et en ce sens qu'il participe à la politique de diffusion des savoirs et de notre objectif de dialogue entre sciences et sociétés. En second lieu, je voudrais remercier nos partenaires, donc la chaire ESS, qui s'attache à valoriser les travaux, les pratiques, les recherches et les formations en économie sociale et solidaire. Deuxièmement, la DRACH, qui est une association d'étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Le réseau Canopée, donc création, accompagnement pédagogique, l'Université populaire de la Grande Synthe, et puis l'État, bien sûr, et le Conseil régional des Hauts-de-France, qui soutiennent cet événement dans le cadre du CPER, du contrat plan État-région EasyMesh. Et puis enfin, je voudrais bien sûr remercier tout particulièrement les contributeurs et conférenciers pour leur participation, dont Madame Teresa Castro, qui va introduire ce printemps, les conférences de ce printemps des SHS. Alors, ces conférences, en fait, ouvrent un espace de réflexion qui est à la fois complexe, passionnant et qui associe de très nombreuses disciplines contributives, pardon, des SHS, la philosophie, le droit, l'économie, la sociologie, les études audiovisuelles, l'architecture, l'histoire, les sciences politiques. Et finalement, toutes ces disciplines contribuent à interroger notre collaboration avec la nature et la nécessité, sans doute, désormais, de lui donner des droits. Pour l'heure, je suis malheureusement pris par une réunion institutionnelle qui va commencer d'ici quelques minutes et je ne peux malheureusement pas rester avec vous. Et donc, je vous laisse au bon soin de ma collègue Emmanuelle Poulain-Goutré, directrice adjointe de la MESH, qui va animer cette première conférence du printemps des SHS, intitulée donc L'attrait de la forêt, et qui sera présentée par Madame Teresa Castro, que je remercie une fois encore. Je vous souhaite en tout cas de très fructueux échanges et vous remercie de votre participation. Voilà, à très bientôt et bon travail.
Merci Christophe. Mathilde?
Merci beaucoup Christophe. Alors juste peut-être un tout petit point pratique en fait. Donc merci à tous les participants qui êtes présents. Donc il y aura dans un premier temps une présentation et ensuite un temps d'échange où nous allons relever l'ensemble de vos questions et remarques, réflexions. Donc n'hésitez pas donc à émettre vos questions dans le fil de discussion sur le chat. Et la rencontre est prévue pour durer 1 heure, 1 h 15. On va essayer de ne pas trop dépasser et de tenir le temps.
C'est bon.
Et éventuellement, si vous souhaitez évidemment connaître les thèmes des autres rencontres, de la dizaine de rencontres programmées, vous pouvez aller sur notre site internet. Donc, je vous laisse, Emmanuel. Excellente rencontre.
Merci beaucoup, merci Mathilde et Christophe. Bien, nous allons donc commencer. Alors moi, je suis très honorée d'ouvrir finalement ce printemps, très honorée de commencer et puis très honorée d'accueillir Teresa Castro. Je suis absolument ravie. Donc, Teresa Castro est une maître de conférence de l'Université Paris 3, de la Sorbonne Nouvelle, en études cinématographiques et audiovisuelles. Alors, ces recherches portent précisément hein, sur les thèmes qui vont nous intéresser aujourd'hui, sur les liens entre cinéma et animisme, mais de façon plus large hein, aussi, sur la vie végétale, sur l'écocriticisme, et donc sur toutes ces questions de culture visuelle, mais qui sont également, bien sûr, en rapport avec des questions d'anthropologie, finalement. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder aussi, aussi ces points. Voilà, donc, sur cette conversation, hein, si vous avez vu un peu le titre qui était annoncé, c'était « L'attrait de la forêt ». Alors, bien sûr, nous allons parler de la forêt, mais pas seulement de la forêt, il faut le préciser. En fait, notre question, hein, ce que va nous montrer Teresa Castro, c'est comment le cinéma a pu se saisir de cette vie végétale, ce qui l'a permis de faire apparaître. Et évidemment, on va essayer de déployer tous les liens qui se sont développés et qui ont nourri à la fois le cinéma et cette connaissance de la vie végétale. Alors, cette réflexion, on peut le dire d'emblée, elle se développe aussi à partir d'un livre que vous avez publié, auquel vous avez fortement participé, donc qui est un ouvrage interdisciplinaire hein, qui s'appelle « Puissance du végétal et cinéma animiste ». Je pense qu'il a été mis dans la bibliographie qui était sur le site de la Mèche. Sinon, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir en fin de conversation. C'est un ouvrage extrêmement riche. Nous allons aborder un aspect, parce que nous n'aurons pas le temps pour tout traiter. Mais je vous inviterai sans doute à la fin, ou Teresa le fera, à aller compléter, notamment sur la photographie. Bon, évidemment, cette conversation naît aussi de cette espèce de mouvement actuel que vous avez dû percevoir autour de renouveau plutôt, autour de certains ouvrages, hein, autour de la vie secrète des arbres, et c'est aussi un petit peu ce qui va nous intéresser. Teresa, je vous propose de commencer peut-être autour de cette question qui est fondamentale justement pour comprendre ce lien entre cinéma et vie végétale, de la plante médiée, peut-être démarrer par cet élément.
Oui, merci infiniment. Je merci infiniment pour cette invitation, pour l'occasion de venir discuter à la fois donc de mes recherches et de pouvoir évoquer aussi ce livre collectif. Alors, je vais assez vite me mettre en partage d'écran parce que j'ai effectivement quelques images à vous montrer, y compris pour pouvoir répondre à cette question de la plante médiée. Alors j'aimerais, je me mets tout de suite en partage d'écran et alors vous m'excuserez en fait de commencer. En évoquant en fait ce livre collectif hein, qui a effectivement été publié récemment. Mais Emmanuel l'évoquait à l'instant et je pense que c'est effectivement très important d'insister sur ça. Comme vous le savez, je pense, il y a en ce moment et depuis plusieurs années déjà en grand intérêt, renouveau d'intérêt autour des questions sur le végétal, que ce soit du côté de la philosophie, de l'histoire, de l'anthropologie, des sciences biologiques elles-mêmes, parce que il y a toute une série aussi de découvertes importantes en particulier sur les questions de forêt, de mycorhizes, de sol, etc., de liens entre la forêt et des micro-organismes qui sont extrêmement, extrêmement importantes et qui sont de fait à l'ordre du jour dans un contexte qui est fortement marqué par ailleurs par ce qu'on appelle souvent la crise écologique. Donc, c'est un ouvrage collectif que nous avons appelé « Puissance du végétal et cinéma animiste », qui réunit à la fois des spécialistes de la culture visuelle, du cinéma, beaucoup de la photographie, des philosophes, des anthropologues, évidemment. Donc, un des co-directeurs de l'ouvrage, mon collègue Perry Pitrou, est anthropologue. Et donc, c'est un peu… Alors, je vais répondre à la question de la plante médiée, qui est donc un argument que je développe, en fait, dans ce livre en particulier. Mais je veux juste insister sur la façon dont cette réflexion et ma réflexion, en fait, aussi personnelle sur ces questions, que ce soit la plante médiée ou que ce soit la question de la forêt à laquelle on va arriver plus tard, et alors très endettée de ce dialogue constant avec des collègues, en particulier anthropologues, et du domaine de la philosophie. Donc, je me réjouis donc de participer à ce cycle sur le végétal. Je pense que vous aurez l'occasion d'entendre des chercheuses et des chercheurs qui viennent d'horizons disciplinaires différents du mien. Mais sachez en tout cas que même si je suis spécialiste de la culture visuelle, je suis effectivement très sensible et toujours dans une optique de dialogue effectivement avec des collègues. Donc ici, quelques images photographiques auxquelles on pourra revenir si on a le temps, parce que comme vous avez peut-être pu constater, même si je vais vite, dans ce livre, il y a plusieurs contributions, en particulier l'historien de la photographie. Alors moi, j'ai effectivement travaillé sur ce que j'ai appelé les médiations graphiques du végétal et l'idée de la plante médiée. Et merci de me poser cette question parce que je pense aussi qu'elle est intéressante peut-être pour introduire potentiellement un débat sur la question de la forêt au cinéma. Et en fait, je pars d'une hypothèse alors, qui va évidemment au-delà de la question de la forêt. J'ai beaucoup travaillé sur la question des plantes et en particulier de la façon dont à la fois l'histoire des images, mais surtout l'histoire des sciences et donc les découvertes scientifiques elles-mêmes, grosso modo, à partir du 19e siècle, se sont intéressées à des problèmes qu'on pourrait appeler des problèmes liés à ce qu'on appelle la physiologie végétale, des questions de mouvement des plantes qui vont in fine, donc à partir de ces travaux du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, qui vont in fine en fait déboucher sur la formulation de certaines hypothèses sur ce qu'on pourrait appeler une intentionnalité végétale hein, dans un premier temps et qu'aujourd'hui on reformule dans des termes qui sont un peu différents, hein, c'est-à-dire on est passé de l'idée d'intentionnalité à l'idée même d'intelligence, hein, d'intelligence végétale, d'intelligence des plantes, etc. Et donc, moi, je me suis intéressée à la façon dont ces médiations graphiques du végétal, donc dans un premier temps, très appuyée sur cette méthode graphique mise au point par Étienne Jules Marais au 19e siècle et ensuite sur le cinéma, comme on le verra, ont à la fois joué un rôle essentiel en termes de recherche scientifique, hein, puisque je peux vous montrer tout de suite les images, mais effectivement, donc dans ces études sur la physiologie du végétal, qui effectivement, donc à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et en particulier en 1880, avec un livre très important de Darwin qui s'intitule Le pouvoir du mouvement dans les plantes. Donc des découvertes qui révèlent en fait toute l'amplitude et la complexité des mouvements des êtres végétaux qui sont pour nous en apparence des êtres immobiles. Hein. Donc là-dessus, il y a évidemment des questions de temporalité et de capacité de vision humaine qui sont très importantes. Et donc c'est en s'appuyant sur ces médiations graphiques du végétal et donc sur toute une série de machines qu'on va parfois bricoler dans les laboratoires et qui permettent potentiellement, comme dans ce livre-là des années 20, aux plantes de s'écrire elles-mêmes, d'écrire elles-mêmes leur mouvement, hein, d'être à l'origine en fait de cet enregistrement de leur mouvement, de cette amplitude, de cette complexité de mouvement. Donc ces médiations graphiques du végétal ont de fait été essentielles pour mieux comprendre toute la complexité de cette vie végétale qui était considérée, Emmanuel est bien placé pour le savoir, comme une vie inférieure. Hein. Les plantes étaient considérées des êtres, évidemment, on savait qu'ils étaient des êtres vivants, mais donc des vies inférieures. Et donc, ces travaux scientifiques, disons qu'on peut faire remonter justement à cette deuxième moitié du 19e siècle, ont été décisifs pour progressivement commencer effectivement à bâtir, je dis bien progressivement, à bâtir cette hypothèse à la fois de l'intentionnalité et voire même de l'intelligence végétale. Et donc les images ont été essentielles. Justement, l'idée de la plante médiée vient de là. Ces images et la médiation des images, la médiation graphique des images a été essentielle. Elle a une fonction réellement heuristique, hein, elle va ouvrir toute une série de possibilités, même en termes de propositions savantes sur cette vie végétale. Et si dans un premier temps, on va s'appuyer sur la méthode graphique de Méliès, évidemment, à partir du moment où la technologie cinématographique est mise à disposition des chercheurs, et À partir de 1897, on a des scientifiques qui vont se saisir justement du time-lapse et donc de cette possibilité de compresser le temps pour justement visualiser, étudier et bien sûr visualiser ces mouvements qui nous sont invisibles à l'œil nu. Okay, donc, évidemment, le cinéma est cette médiation graphique essentielle qui, par ailleurs, va permettre donc à non seulement aux scientifiques, mais à un ensemble de plus en plus vaste spectateurs, parce que ces films scientifiques, en particulier dans les années 20 et 30, même s'ils sont donc tournés dans des contextes scientifiques, ou s'ils ont surtout une vocation pédagogique et qu'ils seront beaucoup montrés parfois dans des circuits scolaires, ils seront aussi montrés en salle. Hein. Les spectateurs, il y a toute une série de récits, en particulier dans les années 20 et 30, où les spectateurs, les spectatrices, soient-ils des adultes ou des enfants, font état de leur émerveillement devant ces images. Je vous ai montré très très vite en fait, justement en exemple dans documentaire britannique où il est question de time-lapse, hein, donc cette compression temporelle qui permet donc de manipuler le temps et de rendre visible à l'œil de l'homme cette complexité du mouvement végétal qui va être très importante par la suite. Hein, mais bon, donc une première réponse un peu longue et labyrinthique sur la question de la plante mouillée, en sachant que j'ai d'autres exemples à vous montrer par la suite.
Ouais. Non, c'est, je pense effectivement c'est très important de le souligner. Moi, j'avais noté une citation d'Epstein qui est intéressante. Il dit « À l'écran, il n'y a pas de nature morte. » Et c'est effectivement le... Alors là, oui, le miracle des fleurs, on vous en parlerait. Mais ce sont les machines, finalement, c'est la technique, mais qui, curieusement, nous permettent d'accéder à une vie végétale, alors, vous l'avez dit, dont on se demande d'ailleurs jusqu'où elle va. Hein, mais quand vous parlez d'émerveillement, hein, je sais que Colette, l'écrivain Colette, avait assisté justement, avait vu un de ses films avec des enfants, et elle racontait qu'elle avait eu la même réaction que les enfants, puisque les enfants s'étaient écriés en voyant une plante, vous voyez, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas donner toutes les images, mais ces plantes qui s'enroulent et qui montent et qui cherchent la lumière, et les enfants s'étaient écriés, elle cherche, et Colette avait été absolument ravie, on sait combien la nature est importante pour Colette. Donc effectivement, oui, vous avez la citation de Scheller, hein, qui va bien sûr déboucher sur autre chose. Alors, on en est à ça, donc première étape, hein, les plantes bougent, et les plantes ont une intentionnalité, elles se dirigent peut-être vers la lumière, etc. Alors, dès lors, l'étape qu'on peut imaginer juste après, qu'est-ce que c'est ? À partir du moment où...
Alors, justement, elle bouge. J'ai déjà, en fait, introduit cette notion. Je suis un peu embêtée parce que, j'ai lancé l'extrait, mais il n'a pas l'air de...
Ça, d'accord.
Vous le voyez bouger ? Non, pas du tout.
Non. Hein,
je ne sais pas. Je relance. Attendez. Je
relance des plantes.
Et que je vais le réouvrir. Et j'essaie de répondre en même temps. Donc, c'est pas déjà à partir du moment où j'introduis cette notion d'intentionnalité, c'est-à-dire on peut être vivant et ne pas faire état dans l'ensemble d'actions qui seraient des actions qu'on pourrait comprendre comme étant intentionnelles. Donc déjà, l'hypothèse même de l'intentionnalité végétale, elle est évidemment importante et elle est particulièrement bien étudiée par ce livre de Darwin. Alors, ce que le cinéma et en particulier, voyons si ça va fonctionner, j'espère que oui, puisque cela fonctionnait tout à l'heure. Non, ça ne marche
peut-être
pas.
Peut-être que c'est très lent.
Et cela avait marché pourtant lors du test qu'on avait fait. C'est pas très grave, je vais improviser, je vous remets à nouveau en fait cette image qui est très suggestive là-dessus. Oui, donc, là, Ce qu'on va avoir, c'est, et le cinéma va beaucoup, beaucoup insister sur, ou renforcer en fait cette idée, c'est l'idée de, des mouvements expressifs. Hein. Alors, c'est l'expressivité du mouvement. C'est l'idée aussi, encore une fois, c'est hyper dommage qu'on n'arrive pas à voir ces images-là. Peut-être que ça va se débloquer, non ? Ce film est un film qui est très intéressant parce que, donc je l'explique rapidement et peut-être qu'on pourra au moins partager un extrait plus tard avec le public. C'est un film qui va être tourné en Allemagne dans les années 20, donc dans un contexte qui est par ailleurs fortement marqué par ces débats autour de l'expressionnisme et où vous avez toute une école qui est cette école de danse d'expression ou expressionniste, qui est par ailleurs une école de danse qui est très intéressée par la question du mouvement des plantes. Cette image renvoie en fait peut-être à une série même d'expériences chorégraphiques de ces années 20 et de ces années 30 en Allemagne, où des danseurs vont essayer de reproduire justement des mouvements des plantes, des mouvements végétaux que le cinéma avait justement révélés. Et alors, ce qui est intéressant dans ce film, Le Miracle des Fleurs, que malheureusement on ne peut pas regarder, c'est qu'on va monter donc des images en accéléré de l'éclosion des fleurs et du développement en fait des formes végétales. On va les monter en time-lapse, donc le time-lapse, avec des séquences qui sont interprétées par des danseurs expressionnistes allemands qui vont réinterpréter à l'écran donc la gestualité expressive des plantes. Okay. Donc, ce film est un film donc à ce niveau-là absolument exceptionnel parce que contrairement, par exemple, à cet autre film que je vous ai montré, il va monter donc des images tournées dans un contexte scientifique avec ces reconstitutions qui sont interprétées par des danseurs. C'est un film qui dure 1h30. C'est un film qui sera extrêmement regardé en Allemagne. Donc, on a toute une série de personnes qui ont pu faire des retours d'expérience sur ces images-là qui sont très suggestives. Et donc, Emmanuel évoquait en passage d'Epstein, j'ai mis ici cette citation du philosophe Max Scheler qui dit « J'ai vu des fleurs, donc en parlant du film, j'ai vu des fleurs respirer, bourgeonner et mourir. L'idée naturelle que les plantes n'ont pas d'âme s'évanouit tout entière. » La notion évidemment d'âme est très très présente, en particulier dans ce contexte allemand de ces années-là, très marqué par cette idée aussi du biocentrisme. Justement, on pourrait aussi évoquer cela. Et donc, je dirais, il y a l'idée d'intentionnalité qui va surgir progressivement. Ensuite, l'idée de mouvement expressif qui est effectivement très importante dans ces années 20 et dans ces années 30. Évidemment, peut-être qu'on va tomber dans le piège de l'anthropomorphisme quelque part. Hein, c'est ce qui va annoncer en fait le travail peut-être de Disney. Mais progressivement, ce qui va se mettre en place, ce sont effectivement les conditions de possibilité, y compris au niveau de la culture visuelle et y compris surtout au niveau du visible. Donc la possibilité d'énoncer l'hypothèse de l'intelligence végétale. Hein, les images là-dessus ont été extrêmement importantes, même si elles viennent toujours avec leur lot de problèmes. Hein, et encore une fois, on pourrait tout à fait s'interroger sur ces questions, ces problèmes d'anthropomorphisme ou de... alors, est-ce que c'est du phytomorphisme, comme certains prétendent? Il y a des débats en particulier, par exemple, autour du livre de Darwin. Il y a des lectures actuelles qui révisitent en fait ce livre que Darwin a écrit dans les années 1880, où Darwin rentre dans le détail justement aussi, qu'il essaie de décrire ces mouvements des végétaux sans utiliser cette idée de mouvement expressif, mais il est clairement très, très frappé par cela. Il dit qu'il essaie de refaire des gestes en fait quand il est assis dans son bureau. Et donc il y a des chercheuses en particulier qui disent il faut renverser le problème, c'est peut-être en fait Darwin qui essaie de se phytomorphiser au moment où il est en train d'étudier les plantes. Donc voilà.
On pourra reparler du phytomorphisme. Alors, juste une petite remarque qu'on pourrait ajouter. Il me semble que ce n'est pas indifférent, tout ça se passe au moment où le cinéma est muet. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on voit des films dans ces premières époques, on n'est pas quand on voit des humains, on n'a pas la parole. Et donc, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans l'image. Et c'est le moment où, dès lors, effectivement, les plantes vont être, vont pouvoir s'exprimer, on va dire, à l'égal des humains. Et puis, il y a une chose qu'on peut faire remarquer également, c'est quand même écrit « The Strangler », c'est l'étrangleur. Dans l'extrait hein, que vous donnez. Donc, on a bien ici une intentionnalité. Je crois qu'il y a aussi, dans le Nosferatu de Murnau, il y a aussi cette idée avec cette plante carnivore qu'on voit dévorer une mouche et qui est présentée comme une sorte de vampire des plantes. Donc, on est là aussi très tôt donc, dans cette intentionnalité. Alors, bon, allons plus loin. Animisme.
Animisme, oui, on peut évidemment parler d'animisme. Alors, juste une petite précision, The Strangler est effectivement un film qui a déjà une voix off, hein, parce qu'à partir de 29 en particulier, donc cette série qui est très populaire, qui s'appelle The Secrets of Nature, qui est très populaire au Royaume-Uni. Et donc, effectivement, la voix off vient plaquer voilà, tout un récit, toute une fiction autour de cette plante qui est décrite en fait comme en criminel, hein. Donc elle est l'étrangleur, donc il y a un rapprochement qui est fait évidemment avec des serial killers. Et donc évidemment l'animisme, puisque et cela est évidemment très 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 clair aussi dans cette suggestion de Max Scheler, c'est que le cinéma contribue en fait à révéler des vies insoupçonnées, ou alors des vies beaucoup plus élaborées aussi qu'on ne pourrait le soupçonner. Donc le cinéma a effectivement cette capacité de révéler des vies, d'attribuer en fait aussi peut-être lui-même des intentionnalités, hein, c'est les formes filmiques, que ce soit le time-lapse, le ralenti, le gros plan, etc., le montage évidemment, ont cette capacité justement de venir attribuer, fabriquer des intentionnalités. Et puis si on revient alors à la question, et si on se concentre sur le cinéma d'animation, qu'est-ce que le cinéma d'animation sinon une forme en fait de réactualisation technique en fait, de ce qu'on a appelé l'animisme dans le passé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est en particulier Sergei Eisenstein quand il va s'intéresser à ces dessins animés de Disney et qui va faire un rapprochement très clair, en fait, avec les questions de l'animisme, qui par ailleurs sont très débattues à l'époque, hein. Donc l'animisme est une notion anthropologique qui a été théorisée à la fin du 19e, qui va être vite associée à la question de l'évolutionnisme, mais qui peut être par ailleurs alors très débattue par des anthropologues dans les années 20, 30, 40, dans des contextes qui essaient aussi de l'affranchir de ces problèmes plus évolutionnistes. Donc Eisenstein va dire le dessin animé est fondamentalement un problème d'animisme, hein, puisque bon, voilà, on va tout animer, hein, les lignes s'animent, les personnages s'animent, on anthropomorphise ou on zoomorphise la nature, et puis donc on a à la fois affaire à des arbres et à des personnes humaines, donc cette célèbre loi de la contradiction qui, selon les anthropologues de l'époque, et en particulier selon quelqu'un qui s'appelle Lucien Lévy-Brulle, ne s'applique pas dans la pensée dite primitive et dans la pensée animiste, qui est une pensée de la participation, hein, donc où cette loi de contradiction est annulée. Elle est parfaitement bien illustrée par le dessin animé. Donc on peut tout à fait être à la fois en arbre et une personne humaine, on est à la fois en dessin et voilà, en une entité animée, comme vous pouvez voir ici, donc, dans ce film que je vous invite à regarder parce qu'il est disponible en ligne, Des arbres et des fleurs, par ailleurs hyper intéressant par rapport à des questions d'anthropomorphisation de la nature.
Ouais. Oui, c'est dans les Silly Symphonies, c'est ça, hein.
Tout à fait.
Ouais. Sinon, je pense qu'on peut aussi renvoyer à l'extrait dans Alice au Pays des Merveilles, où on a une longue chanson avec des fleurs animées, et qui est intéressante également parce que les fleurs ne sont pas toutes animées au même niveau. Certaines sont véritablement très très proches de l'humain, et puis d'autres sont une sorte de mi-plante, mi-animal, avec juste une sorte de gueule d'animal qui s'ouvre pour chanter, mais les yeux n'apparaissent pas. Enfin, c'est intéressant de voir ces différents stades. Alors, oui, vous le disiez, animisme, animation, le cinéma anime, le cinéma donne une âme, hein. Après évidemment on peut jouer beaucoup là-dessus. Alors jusqu'où l'anthropomorphisation. Est-ce que alors certains ont parlé d'empathie aussi, enfin ce passer par l'anthropomorphisme, c'est peut-être une façon de comprendre. Le cinéma peut peut-être nous permettre aussi cela quand on revient, voilà par exemple à Reichmann.
Oui, tout à fait, mais l'extrait va pas se lancer en lui.
On n'y arrivera pas.
Cette présentation. Oui, alors l'anthropomorphisme est une question très intéressante. Alors déjà, je reviens en arrière parce que comme ça au moins on a les images de Disney. Et l'anthropomorphisme est une question extrêmement importante ici. Et alors une première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire attention à bien distinguer l'anthropomorphisme de l'anthropocentrisme, pardon. Les deux questions sont liées, mais l'anthropomorphisme n'est pas nécessairement toujours au service de l'anthropocentrisme. Et donc, cela est évidemment intéressant à relever ici, parce que nous sommes en train de discuter aussi de la complexité de la vie végétale, de la potentielle intelligence des arbres, des plantes, etc. Ce qui, évidemment, nous invite à nous affranchir de nos conceptions anthropocentriques et de cette idée aussi que les humains auraient l'exclusivité de l'intelligence. Donc, je me permets de faire cette distinction. C'est évident, moi, je pense qu'on peut difficilement se passer d'anthropomorphisme parce que nous sommes des êtres humains, donc nous pensons comme des êtres humains, nous écrivons, notre langage est un langage humain, donc c'est très, très difficile d'éviter l'anthropomorphisme. Peut-être qu'on pourrait distinguer ou essayer d'avoir une sorte de gamme nuancée en termes de gestes anthropomorphiques. Peut-être qu'il y a une forme d'anthropomorphisme qu'on pourrait qualifier de critique dans le sens où l'anthropomorphisme ne serait pas nécessairement au service d'une entreprise anthropocentrique. Peut-être que l'anthropomorphisme est justement le véhicule d'une forme d'empathie qui peut négocier potentiellement, voilà, une ouverture vers ces autres non-humains auxquels nous essayons effectivement, je pense, de plus en plus de nous ouvrir aujourd'hui parce que justement nous sommes dans une phase et dans un moment où ces questions se posent de façon très concrète. Il faut repenser peut-être radicalement notre rapport aux non-humains, pluriel et évidemment à ce que nous avons appelé la nature. Je pense qu'on peut difficilement se passer de l'anthropomorphisme. Alors, ce n'est pas nécessairement l'anthropomorphisme, bien que ce soit très attirant, ce n'est pas nécessairement ce que fait Disney, parce que Disney, effectivement, n'est pas du tout, ce n'est pas un anthropomorphisme critique. On va totalement plaquer le modèle de la société humaine, les comportements genrés, d'ailleurs, dans des arbres et des fleurs. Tout cela se finit par un mariage entre ces arbres qui sont tombés amoureux l'un de l'autre, avec un arbre méchant qui s'en mêle et qui met le feu à la forêt, justement.
Un arbre sec, un vieil arbre sec.
Donc, encore une fois, je vous invite à voir le film et j'insisterai, l'anthropomorphisme n'est pas nécessairement juste Disney, hein, et peut-être qu'on ne peut pas s'en passer parce que nous sommes des êtres humains malgré tout, mais peut-être qu'il faut développer des formes d'anthropomorphisme critique. Et je pense que la notion, alors l'empathie effectivement est une notion qui a alors une idée même qu'on associe peut-être plus au 19e siècle, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu désuet, mais on est en fait en train de parler de problèmes de sensibilité au vivant, de sensibilité au végétal, donc des problèmes qui passent effectivement par le rapport que la spectatrice, le spectateur va établir avec ces images. Donc évidemment, les images ont un rôle essentiel ici. Elles peuvent œuvrer à une nouvelle sensibilité. Et avec la question de la sensibilité, il y a aussi l'idée de l'attention. Hein. L'attention est une forme politique. Hein. À quoi fait-on attention? Comment peut-on devenir plus attentif et attentive à ces autres végétaux qui nous entourent et que nous avons eu tendance, comme moi, avec mon fond virtuel, à mettre justement au fond de l'image, mais comment devenir plus attentive, plus attentif, et comment œuvrer à cette nouvelle sensibilité qui nous permet peut-être au-delà, d'aller au-delà dans l'anthropocentrisme qui s'avère peut-être, qui s'est avéré au dernier siècle très nuisible pour tout le monde.
Et c'est vrai que là, il y a un mouvement de, avec l'empathie, effectivement, le terme est intéressant parce qu'on voit là un mouvement qui va vers l'autre pour essayer de le comprendre. Et quand on fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on peut voir pour essayer d'interpréter pour cette vie des plantes, quand on fait un petit peu, on pourrait renvoyer à l'ouvrage hein, parce que chacun va y revenir, mais certains parlent de langage archaïque, de proto-pensée, de pulsion, etc. Enfin, on sent là qu'on tourne un peu autour, on ne va pas revenir à un animisme ancien qui serait considéré comme archaïque, mais on a un certain nombre de choses et qui, encore une fois, sont dues à tout ce qu'on a pu filmer. Hein. Vous parliez du time-lapse qui permet enfin, effectivement de on y revient, si on a le temps, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu du temps, parce que ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis, dès lors, à l'inverse, avec le film qu'on n'a pas vu, on voit comment l'humain lui-même peut être amené à ces mouvements qui sont ceux des plantes. Il y avait Eisenstein aussi qui faisait des dessins. Il était très intéressé par Philémon et Baucis. Et donc, il y a une série de alors, il y a très joli Les fleurs animées. C'est celui-là, ou non, Les fleurs animées qu'on vient de voir passer. et donc, ce fait que. Voilà, les fleurs animées, on vient de les voir, on peut peut-être en dire un petit mot. Mais je reviens à Eisenstein qui voit finalement, qui avait étudié aussi les trans, où les humains font des mouvements qui sont finalement, au bout du compte, les danses de trans, qui sont un petit peu les mouvements qui sont les mêmes que ceux des plantes. Donc, si on va encore un petit peu plus loin, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu peut-être sur ces fleurs animées, mais qui sont vraiment du côté, à moins que vous vouliez en dire un petit mot tout de suite, qui sont vraiment du côté de l'anthropomorphisme, peut-être. Peut-être juste,
oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur ces questions, alors je vais faire relativement vite pour qu'on puisse aussi peut-être parler en oui, tout petit peu des questions qui étaient annoncées. Mais alors, il y a effectivement toute une tradition aussi de, alors justement, d'anthropomorphisation de la fleur ou de phytomorphisation de la femme, parce que la question du genre est effectivement très importante. Et que, alors, si je reviens effectivement au livre, il y a un collègue qui se penche de façon très détaillée aussi sur ces films des premiers temps qui sont extrêmement beaux parce qu'ils sont coloriés à la main ou au pochoir. Et on va voir toutes ces femmes fleurs, hein, les fleurs s'animent, ou les femmes se végétalisent, hein, parce que là aussi, il y aurait un grand débat à avoir sur la question de l'âme végétale ou des femmes qui végètent, justement. Donc, les questions de genre, elles sont extrêmement importantes ici. Mais il y a toute une tradition, et par ailleurs, ce que je dirais, c'est très, très clair dans les images que j'ai mises ici. C'est aussi un autre problème, c'est le problème de l'ornement, de l'ornementation. Donc, effectivement, aussi le végétal, et encore une fois, le papier peint que j'ai mis comme fond d'écran ici, renvoie aussi à ces questions. C'est que la complexité, en fait, formelle même de la vie végétale, c'est-à-dire la vie végétale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Ecoccia dans son livre sur la question de la vie des plantes. Hein. Il attire, en fait, l'attention aussi sur cette dimension très plastique de la vie végétale. Ce sont des formes qui sont extrêmement élaborées. Donc, la vie d'une fleur, d'une plante, elle est extrêmement élaborée. Et elle ne cesse, en fait, de produire des formes qui sont extrêmement... auxquelles nous sommes très sensibles d'un point de vue esthétique, que ce soit nous en Occident ou toute une série d'autres cultures. Hein. Encore une fois, dans le livre, il y a des contributions d'anthropologues qui portent aussi sur ça, et en particulier sur le contexte japonais, où cette sensibilité aux formes végétales est très, très forte. Mais disons qu'en particulier, encore une fois, au XIXe siècle, cette dimension ornementale de la vie végétale et son association évidemment avec le féminin a connu, disons, un grand moment de développement, et que cela se manifeste aussi dans ces films, très petits films, courts films des premiers temps, mais qui sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là. Voilà.
Ça nous fait une bonne transition finalement, parce que maintenant on va pouvoir passer à l'autre aspect. On a humanisé les plantes et puis vous venez de le dire, hein, on a transformé les femmes en fleurs. Et donc inversons le mouvement, l'homme-plante, la métamorphose de l'homme en plante, et on a bon, des incarnations très récentes là, pour le coup, de ce mouvement. Mais on est toujours dans cette histoire de rapprocher les uns des autres finalement, hein, par un biais ou par l'autre.
Tout à fait, tout à fait. Et alors, je commence à avancer. Alors, progressivement, j'ai encore d'autres images qui nous mènent, qui nous conduisent en fait progressivement dans ce terrain de la forêt. Et c'est en particulier alors dans ce territoire très particulier qui est la forêt que certaines métamorphoses vont se dérouler. Donc, je parle bien de métamorphoses. Et alors, je vais effectivement évoquer par exemple surtout des cas de corps humains qui vont se métamorphoser en plantes, hein, ce qui peut être plus ou moins inquiétant et plus ou moins angoissant. Okay, donc la forêt est par définition, donc il y aurait toute une série de choses à rappeler là-dessus, et vous êtes peut-être mieux même placé que moi pour le faire. Mais donc la forêt effectivement s'est constituée comme un territoire qui est en dehors de l'espace civilisé, de l'espace de la ville. Donc c'est un territoire où non seulement vont se cacher les hors-la-loi comme Robin des Bois, qui était le plus connu, les hors-la-loi se cachent dans la forêt, mais c'est la forêt aussi par définition donc un lieu où vont se dérouler parfois des phénomènes un peu magiques, un peu inquiétants, et c'est dans l'espace de la forêt que le corps de l'homme, hein, le corps humain plutôt, peut être concerné par des métamorphoses qui vont le conduire à se transformer dans un être végétal ou dans un être animal. La forêt a souvent été pensée, donc je termine mon petit commentaire global sur la forêt pour commenter l'image qu'on est en train de voir, comme un lieu potentiellement menaçant et inquiétant. Encore une fois, alors il y a cette séquence absolument formidable et très très connue dans Blanche-Neige de Disney, où la forêt va encore une fois s'anthropomorphiser et s'attaquer à une jeune fille, hein. Les films d'horreur qui par la suite ont réadapté cette séquence de Blanche-Neige sont légion, hein, toujours des femmes qui se font attaquer par la forêt, non seulement dans la forêt, mais par la forêt elle-même. Petite précision, je tiens à le dire, les hommes, eux aussi, perdent la raison dans la forêt. Hein, en tant qu'être rationnel, ils vont parfois totalement perdre pied, perdre raison dans la forêt. Et encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Mais donc, moi, ce qui va m'intéresser, et je pense que c'est de ça aussi que qu'on aurait envie de parler avant de passer la parole au public, c'est effectivement d'une série de propositions contemporaines où on va avoir affaire justement à ces corps humains qui vont progressivement en fait se métamorphoser en des êtres végétaux. Et donc, j'évoque ici ce film qui est un film de science-fiction, encore une fois avec une dimension très inquiétante, où une équipe exclusivement féminine se rend dans une zone, un tout petit peu comme un sens presque de Tarkovsky dans Stalker. Hein, c'est on ne comprend pas tout à fait qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone sur laquelle dans cette équipe de scientifiques enquête. Il y a toute une série de phénomènes qui sont en train de se dérouler qui sont extrêmement étonnants, dont cette transformation, comme on peut le voir, donc d'êtres humains en des êtres entièrement végétaux, donc ici immobilisés. Donc il y a cette question de l'immobilité qui est effectivement, effectivement importante. Donc encore une fois, donc la forêt comme le lieu de la métamorphose, mais il faut penser que cette métamorphose, alors pour revenir peut-être à ce que je vous disais tout à l'heure sur une critique de l'anthropocentrisme, c'est la métamorphose est une façon de s'ouvrir justement à l'autre et à cette contamination avec l'autre et progressivement à abandonner justement peut-être cette référence justement du seul corps humain comme support d'une forme de subjectivité. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez, vous Emmanuel aussi, introduire cet autre exemple de cette série suédoise.
Oui, alors c'est une série que peut-être certains d'entre vous ont vue parce qu'il me semble qu'elle était passée sur Arte. Donc il s'agit de George Scott, hein, cette série policière hein, où une femme va, encore une femme d'ailleurs, hein, c'est intéressant, hein, Teresa, ce sont des femmes hein, d'ailleurs dans cette forêt. Si mes souvenirs sont bons, il y a un être masculin, une sorte de créature de la forêt, mais sinon ce sont des femmes qui sont des sortes de sorcières aussi, hein, qui vont, il y a cette vieille dame qui s'occupe de lui. Et donc voilà, vous l'affichez, une femme va faire va mener une enquête hein, sur sa fille qui a disparu. On voit la fille sur l'image, cette épouvantable image de pied qui se transforme. Et effectivement, là, vous allez pouvoir en parler. En fait, dans cette forêt extrêmement mystérieuse, les êtres humains qui avalent une boule mystérieuse hein, vont progressivement se transformer en plantes. Hein.
Alors, tout à fait. Alors, il y aurait d'autres exemples, mais cette série est effectivement très intéressante et elle permet aussi de rappeler, alors encore une fois, c'est pas que je veux, que j'ai envie systématiquement de vous renvoyer la balle, mais effectivement, c'est une série qui se fonde sur les traditions médiévales, ouais. Voilà, qui sont très, très présentes. Donc en Suède, donc sur ce fond, on va dire mythologique autour de la forêt. Donc la forêt serait en fait habitée par des entités. Alors anthropomorphes, hein, souvent ce sont des petits trolls, mais voilà qui habitent cette forêt. Il y a aussi un esprit de la nature en fait qui se manifeste. Et donc la série est extrêmement intéressante d'un côté. Parce que voilà, elle pose effectivement ce problème d'une contamination. Je vais utiliser ce terme même s'il est un peu péjoratif. Mais on va dire cette contamination du corps humain par une dimension et des caractéristiques végétales. Hein, c'est ce qu'on voit un tout petit peu dans ce dessin qui est reproduit à l'écran et qui est effectivement alors convoqué par une sorte de figure féminine qui est un peu sorcière et qui donc a un rapport privilégié justement avec les herbes, les plantes, avec la forêt, etc. Et puis, deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, parce que voilà, c'est un peu cette idée aussi d'éco-criticisme dont parlait Emmanuel au départ quand elle parlait de mon travail. Ce qui est intéressant dans la série, c'est voilà, il y a une sorte de sous-texte extrêmement actuel qui porte sur cette idée de la nature qui agit, qui se venge un tout petit peu en fait des actions des hommes, hein, et qui vient donc, alors qui se venge des actions des hommes, parce que on est encore une fois dans un contexte de crise écologique, si tant est qu'on peut parler de crise, puisque la situation n'est pas juste une situation temporaire, hein, il faut bien l'assumer. Et donc il y a effectivement cette idée dans l'esprit de la nature qui va se manifester. Alors, toujours ici, d'une façon un tout petit peu inquiétante et angoissante. Mais il y a effectivement des figures humaines, et en particulier des femmes, qui arrivent à, on va dire, à nouer des alliances avec ces esprits naturels et qui voilà, vont essayer, en quelque sorte, justement, de se faire le relais de cette nature qui essaie de se défendre elle-même. C'est aussi un grand topo aujourd'hui autour de ces questions, en fait, écologique, et c'est en topo par ailleurs problématique auquel on pourrait s'intéresser. Mais donc effectivement, donc le sous-titre, c'est la forêt des disparus, parce qu'il y a effectivement des personnages qui vont disparaître, en particulier des enfants. Donc la forêt qui s'attaque à des enfants, c'est toujours terrible. Mais alors le fond de la série sur ces questions encore une fois écologiques est assez intéressant, et finalement ces personnages féminins arrivent ou réussissent malgré tout à nouer des alliances.
Oui, et d'ailleurs la jeune fille va choisir de devenir arbre. À un moment, elle peut choisir, cette fille de cette héroïne va choisir d'aller jusqu'au bout de sa transformation et de devenir un arbre. Tout à fait. Choisir la nature.
Ouais. Cette idée peut-être aussi que cette génération plus jeune, hein, la génération des enfants, est peut-être plus à même et plus apte que nous à faire ce mouvement d'ouverture qui est effectivement, alors dans la série, extrême, hein, et très, très littéral, parce que, alors, on peut, comme dans Annihilation d'Alex Garland, c'est réellement encore, hein, comme vous voyez rapidement ici, sur lequel peuvent pousser des racines, hein, comme dans ce dessin de pied, où c'est souvent les poumons et la respiration aussi qui va être affectée. Et donc, je voulais juste vous dire que, en fait, vous avez systématiquement parfois toute une série de propositions cinématographiques qui peuvent effectivement donc se concentrer et analyser ces, alors encore une fois, ces contaminations entre les hommes et les végétaux. Et ici, c'est un film extrêmement différent. C'est un film qui, comme souvent chez cet auteur italien qui est Michelangelo Frammartino, un film qui ne prend, alors qui oscille, on va dire, entre le documentaire et la fiction, et qui s'intéresse en fait à ces traditions de carnaval à Sartriano, dans le sud de l'Italie, où des hommes vont s'habiller en arbre. Et le film est absolument extraordinaire aussi en ce qui concerne cette façon de filmer les arbres et en particulier la forêt, hein. Donc tout ça pour vous dire que, à vrai dire, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cela et sur cette, on va dire, contamination des corps humains par les éléments végétaux. Et encore une fois, j'insiste, c'est presque toujours dans l'espace de la forêt que cela arrive, parce que cet espace, c'est un espace par de définition un peu magique, on va dire.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y aura encore de nombreuses choses à dire, je me rends compte que l'heure tourne. Bon, vous avez parlé de contamination, hybridation, c'est bien aussi, c'est peut-être plus inclusif. Mais bon, alors oui, il y a toute cette idée. Si on fait un petit peu le bilan quand même, on voit que le cinéma va servir à deux choses. Enfin, par le biais de ce qui est cette démarche scientifique, de montrer finalement, en modifiant le temps, comment les plantes poussent. Vous l'avez dit dans des textes, hein, vous avez parlé effectivement de réenchantement du monde, hein, et ça, il me semble que c'est une notion importante. Ce qui est intéressant, c'est que cette fusion, cet enchantement, il existait bien sûr depuis longtemps, puisqu'on pense aux métamorphoses d'Ovide, tout simplement, hein, où les humains vont pouvoir se transformer en plantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le cinéma va repasser, donc il y aura évidemment une période où ce sera moins net, et puis avec cette apparition du cinéma, on va repasser par quelque chose qui est scientifique, montrer comment les plantes poussent, chercher, et puis on va arriver à cette histoire d'âme finalement, et puis on va retrouver maintenant, grâce aux effets spéciaux, ce monde qui devient un monde où on cohabite, on se mélange, et où finalement le végétal et l'humain explorent leurs limites, je dirais leurs limites respectives, pour se rejoindre. Voilà, je pense que raisonnablement, on va peut-être laisser la parole aux questions. Il y a des choses que sans doute les participants voudraient demander, et puis sinon moi j'en ai, hein, des questions. Mais n'hésitez pas, ne soyez pas timide si vous avez des questions à poser. Alors, vous avez effectivement toutes les références. Allez voir les films, hein, je pense qu'effectivement. Alors, voilà une question. Est-ce que je la lis, Teresa? Vous voyez la question? Ou je la lis, hein, comme ça tout le monde en profite. Est-ce que l'anthropomorphisme ne peut pas être aussi le relais d'un appel à la préservation, ou du moins le respect d'une nature au sens large, hein, qui permettrait une cohabitation, un dialogue? Oui, bien sûr, Miyazaki, le film de Miyazaki, Princesse Mononoke, avec le dieu cerf, bien sûr. Ouais.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est-à-dire l'anthroponorphisme, a souvent en fait été très critiqué et l'est toujours en fait très critiqué. C'est une sorte de menace que tous les scientifiques essaient de se défendre de ces périls de l'anthroponorphisme. Au contraire, moi, je pense, en m'appuyant aussi sur certaines lectures philosophiques ou éco-critiques, voire éco-féministes. J'ai en tête en particulier le travail d'une philosophe australienne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Val Plumwood, qui a beaucoup écrit, qui a un peu écrit en fait sur ces questions, et qui rappelle elle-même que l'anthropomorphisme peut servir exactement à ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se débarrasse totalement de l'anthropomorphisme, déjà parce que c'est sans doute impossible, nous sommes des êtres humains, donc j'insiste encore une fois, le langage, la pensée, c'est difficile en fait de penser comme une plante, hein, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Donc forcément, ces questions d'anthropomorphisme seront toujours présentes, mais l'anthropomorphisme peut servir justement à ça. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme peut y compris servir à faire cette critique dans l'anthropocentrisme, hein, parce que en fait, le problème me semble être cette question de l'anthropocentrisme, qui n'est pas nécessairement non plus l'équivalent dans l'humanisme. Hein, je ne suis pas nécessairement en train de non plus de m'attaquer à l'idée d'humanisme, mais je pense effectivement qu'il faut repenser radicalement le rapport que nous avons avec les êtres, ce qu'on a appelé souvent les êtres de nature, avec les êtres végétaux, et que, alors, vous convoquez évidemment les films de Miyazaki, qui sont extrêmement intéressants et puissants de ce point de vue-là, parce que, encore une fois, je pense qu'ils peuvent justement aider à forger cette nouvelle sensibilité au vivant dont je parlais tout à l'heure. Parce que je pense effectivement que c'est un problème de sensibilité. Et si l'anthropomorphisme s'y prête, moi, je n'ai absolument rien contre. Et donc, évidemment, c'est aussi ce qu'on va trouver dans les films de Miyazaki. Mais encore une fois, ce que je veux aussi suggérer, c'est que parfois, ces questions, elles se prêtent à une double lecture. Parce que parfois, on a anthropomorphisme, mais on pourrait tout à fait dire qu'il y a aussi phytomorphisme des personnages humains. Hein. Mais donc, c'est effectivement un exemple extrêmement juste. Donc, ces dessins animés japonais. Et je vais l'écrire tout de suite sur le chat, le nom de la philosophe. Oui. Et c'est un très bon exemple. Et par ailleurs, ces films sont extrêmement intéressants aussi pour penser le problème de l'animisme, encore une fois. Mais c'est un exemple qui est juste. Et Princesse Mononoké en particulier est très intéressant, encore une fois, de ce point de vue.
Qui en plus d'apprendre d'autres dans nos limites au lieu de le faire dans ses complexités. Ben justement non.
Ça peut l'être et ça peut être aussi autre chose. C'est pourquoi je vous proposais en fait de se dire, et encore une fois, voilà, je peux vous citer aussi en fait des travaux parfois d'anthropologues, dont Charles Stepanov par exemple, qui a un tout petit peu écrit sur ces questions et qui essaie justement d'expliquer que l'anthropomorphisme ne constitue pas nécessairement en fait voilà une forme de capacitisme qui empêche d'apprendre l'autre dans nos limites au lieu de le faire dans ses complexités. C'est-à-dire qu'il faudrait envisager l'anthropomorphisme comme une gamme très vaste et très ample de rapports potentiels en fait à ces autres, et que à l'intérieur en fait de cette gamme vous avez effectivement, alors, et la plupart du temps, dans toute une partie voilà, d'exemples de la littérature scientifique ou pas, l'anthropomorphisme va tomber dans ce piège-là. Mais surtout si on part du principe, et certains anthropologues et certains philosophes ont tendance en fait de défendre cette idée, qu'à vrai dire, on peut difficilement éviter l'anthropomorphisme puisque nous sommes des êtres humains, ce qu'il faudrait investir, travailler, imaginer, que ce soit dans le domaine des arts, de la création, ou même y compris dans celui de la littérature scientifique, c'est que l'anthropomorphisme peut servir justement aussi à nous ouvrir à cette autre complexité et à tirer l'attention sur nos propres limites.
Oui, vous évoquez d'ailleurs là dans le chat, le végétal peut-il servir inversement à penser l'humain, bon, en dehors de la... Là, vous utilisez la métaphore, mais je voudrais en profiter pour revenir un tout petit peu sur cette histoire de temps. Essayer de penser le végétal ou comme le végétal, c'est décentrer le regard. Et je pense qu'effectivement, ça peut nous servir. Si on revient, moi, j'ai trouvé absolument passionnant le fait qu'avec le time-lapse, hein, on va ralentir le temps ou l'accélérer, enfin, ça dépend de la façon dont on se place. Et finalement, on se rend compte de la relativité du temps, hein, d'un temps humain qui n'est pas le même que celui des plantes. Et si finalement on se mettait, je crois que c'est un des biologistes qui écrit, si on se mettait à la place d'une plante, si on arrivait à avoir le temps d'une plante, on verrait le soleil comme une espèce de comète qui traverse à toute vitesse. On verrait les animaux comme des sortes d'étoiles filantes qui traversent parce qu'ils vont beaucoup trop vite. Et donc, on verrait le monde tout à fait autrement. Et là, cette histoire de décentrement, grâce encore une fois au cinéma, là, pour revenir à notre thématique de cinéma, je la trouve absolument passionnante parce que là, on va entrer dans des questions philosophiques de perception du temps, de relativité du temps.
Cette question a effectivement été très, très importante et très discutée, hein, en particulier, alors vous aviez évoqué tout à l'heure le cinéaste et théoricien Jean Epstein, français, dont tout le travail en fait théorique sur le cinéma est globalement axé sur ces problèmes de temporalité. Il n'arrête pas de répéter que le temps est la dimension la plus importante de l'être humain et en fait c'est la matière plastique que travaille le cinéma, c'est essentiellement donc la question de la temporalité. Il est lui-même très sensible en fait à cette utilisation du time-lapse et à tous ces films en fait qui vont montrer la germination du blé, la croissance des végétaux. Donc il y a systématiquement dans ses écrits, que ce soit les écrits des années 20, des années 30 ou même de la fin des années 40, il y a toujours des allusions en fait à ce type de film. Et de fait, ce que réussit le cinéma, c'est à calibrer, pour ainsi dire, en fait, la temporalité des êtres végétaux et la temporalité des êtres humains. Et cela est fait grâce à la machine, grâce à cet appareil. Donc, encore une fois, c'est cette médiation, si je reviens à l'idée de la
temporalité.
Voilà. C'est justement cette médiation machinique qui est ici absolument essentielle parce qu'elle permet de calibrer deux temporalités qui n'étaient pas jusque-là réconciliables et qui avaient l'air d'être un peu même incommensurables, c'est-à-dire le temps des hommes, le temps des arbres, le temps des plantes est différent. Les phénomènes en fait de naissance, de croissance, de dépérissement, de mort sont effectivement différents. Et le cinéma, justement, parce que il a cette capacité de travailler la matière temps, soit de condenser, soit de l'élargir, a été ici absolument essentiel. Et sur ces questions, encore une fois, de temporalité végétale, encore une fois, si on s'intéresse à des textes rédigés dans ces années 20-30, il y a souvent des références effectivement à ce problème.
Alors, le time-lapse, ce n'est-il pas un anthropomorphisme? Oui, mais enfin, comment s'approcher sinon?
C'est franchement ouvert à débat. Est-ce que c'est de l'anthropomorphisme? Alors, parce que le temps du time-lapse n'est pas le temps humain, c'est le temps du cinéma. Donc, en fait, la question est beaucoup plus complexe qu'elle ne le semble. Hein. On aurait, effectivement, on peut dire ce que fait le time-lapse à l'œil du spectateur lambda, c'est en fait de suggérer que les plantes se comportent comme des êtres humains. Et là, il y aurait effectivement anthropomorphisme. Ça, c'est une chose, mais il y a des lectures différentes, il y a des récits, en fait, de spectateurs qui ne sont pas nécessairement en train de projeter, voilà, en train de dire « Ah, je vois quelque chose qui ressemble à un être humain sur l'écran », mais qui sont réellement éblouis, en fait, par, tout simplement par la différence. Et donc, j'en finis encore une fois, le temps, c'est-à-dire nous avons naturalisé le mode perceptif qui est alors la perception machinique qui est celle du cinéma. Nous sommes très habitués à cela, mais cette capacité à compresser le temps, à nous le montrer de cette façon-là, est une perception qui n'est pas humaine par définition, c'est une perception machinique. Donc vous voyez, même ici, par rapport à cette question de l'anthropomorphisme au cinéma, il faut introduire en fait des nuances et des nuances qui viennent complexifier les choses. Mais encore une fois, alors je vous renvoie à toute cette littérature qui essaie aujourd'hui en fait de complexifier la façon dont nous envisageons l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'anthropomorphisme n'est pas nécessairement juste un concept, une notion en bloc qui peut être, voilà, qui peut servir le projet d'anthropocentrisme et nous renvoyer toujours à ce, à cette difficulté qui est donc l'être humain va imposer sa matrice, son corps sur sa pensée, sur la lecture des choses. Est-ce que l'anthropomorphisme ne serait pas capable parfois d'ouvrir des brèches, en fait, dans ces récits très, très normatifs? Donc, c'est de ce point de vue-là que je parle d'anthropomorphisme.
Je crois que de toute façon, tout le monde aujourd'hui se méfie. Justement, la question d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme, etc., tout le monde en est très conscient aujourd'hui dans le regard porté sur les plantes. Et donc, disons qu'on l'évite, enfin, on évite l'anthropocentrisme sans doute beaucoup plus qu'auparavant.
Il faut l'éviter. C'est sûr qu'il faut l'éviter, c'est-à-dire il faut repenser en tout cas, rééquilibrer encore une fois les relations et les rapports que nous avons, que ce soit avec les animaux, les plantes, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle encore aujourd'hui la nature. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut qu'une critique de l'anthropocentrisme est nécessaire. Et une critique de l'anthropocentrisme n'est pas nécessairement, j'insiste, mais ce serait un autre débat, une critique anti-humaniste. Hein. Voilà.
Bien, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons arriver au bout de cet échange. N'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Teresa. C'était très intéressant. Et puis, vraiment, moi, j'incite tout le monde d'abord à aller voir ce qu'on n'a pas pu voir, le film, évidemment, qui est Le miracle des fleurs, hein, Blumenwunder, que vous pouvez voir et qui est effectué en morceaux, pas complètement. Il faut payer, je pense, pour accéder au film en entier, mais qui est vraiment très intéressant. Et puis, consulter l'ouvrage, je le disais, nous n'avons pas pu parler de la photo. Tous les travaux, là, on est plutôt dans le domaine artistique, hein, de photographes qui vont travailler à partir justement d'un matériau qui est la plante, puisque la plante est photosensible. Enfin voilà, tout ce développement-là est également très intéressant. Le nom de la philosophe, c'était une autre que Val Plumwood,
dont un petit livre, en fait, donc Val Plumwood n'est pas traduite en français, exception faite à sa dernière conférence. Qui vient d'être traduite fin 2020 sous le titre « Ranimer la nature ». C'est un petit livre qui est paru, je pense, aux Presses universitaires de France, je ne me rappelle plus très bien. Et voilà. Donc, je vous incite vraiment à la découvrir et en particulier donc, en livre qui s'appelle The Ecological Crisis of Reason, qui est très intéressant et où elle discute en particulier de ces... Ah, merci infiniment. Réanimer la nature, tout à fait. Donc, c'est la dernière conférence de Val Plumwood avec une introduction en postface, je ne me rappelle plus très bien, de Diane Linder, qui est spécialiste de l'œuvre de Plumwood, et le traducteur est Laurent Buré. Très belle conférence et donc dans The Ecological Crisis of Reason vous avez plusieurs passages où elle s'attaque frontalement en tant que philosophe à ces questions d'anthropomorphisme. Qu'est-ce qu'on en fait de cela et comment peut-on mettre l'anthropomorphisme au service de ce projet écologique? Et voilà, elle en parle mille fois mieux que moi et je vous invite vraiment à découvrir sa pensée.
C'est Teresa. De toute façon compléter, mettre des choses effectivement sur le site de la Mèche hein, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'éléments. Voilà, il me reste à conclure. Alors, vous avez vu passer dans le chat qu'il y a d'autres événements, bien sûr, tout aussi intéressants à suivre. Dès demain, hein, l'attention végétale. N'oubliez pas d'aller consulter le programme, ce qui permettra d'avoir effectivement un point de vue général sur toutes ces questions qui sont passionnantes. Merci encore, Teresa.
Merci à vous, c'est un plaisir et voilà, je vais essayer d'assister d'ailleurs à d'autres conférences. Voilà. Merci beaucoup.
C'est parfait, merci beaucoup, je vérifie. Voilà, au revoir à tous. Est-ce que c'est Mathilde qui ferme la session? Oui, c'est Mathilde. Mathilde, on vous rend l'antenne comme on dit
merci à tous, merci à tous les participants. Et nous travaillerons peut-être sur une bibliographie de l'ensemble des séances du printemps et des références. Je pense que ce sera, on en avait discuté avec donc Constance Bien-Aimée qui assure la programmation de ce printemps. Donc, on tiendra l'ensemble des participants au courant de ça. Merci à tous, merci à vous et à très bientôt, à demain.
Au revoir à tous.